Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama. On a essayé de consulter Madame Irma pour savoir eh bien, à quel moment on pourrait rejoindre les salles de cinéma. On a essayé de consulter aussi la ministre de la Culture et on n'a pas eu non plus de réponse. Voilà, donc on est encore dans le flou, mais on a quand même trouvé des films dont on va vous parler. Mais ces films, ils sont alors sur les plateformes et puis en DVD VOD. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors de quoi on va parler, Manu ?
Eh bien, je vais vous parler d'un film, The Nest, avec Jude Law, et puis un documentaire, hein, Je m'appelle Humain.
Et ce film, The Nest, avec Jude Law, qui a remporté le Grand Prix à Deauville, trois prix à Deauville, nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial Jude Law, qui a, ma foi, eh bien, une filmographie plutôt copieuse, une soixantaine de films. Et toi, Guillaume, c'est un DVD ressorti des années 70.
C'est ça, c'est une des dernières sorties d'Artus Film, hein, Le Prince des Chats, d'Ota Koval.
Et puis moi, je vous parlerai alors très rapidement du film des frères Russo, ceux qui sont habitués aux blockbusters, aux films de super-héros, qui ont fait un film qui s'intitule Chérie, sur la plateforme Apple TV+. Mais nous allons commencer cette émission avec Jeune femme partagerait appartement, film de 1992 de Barbette Schroeder, l'occasion de revenir sur l'âge d'or du thriller érotique avec Marie.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Quand est-ce que vous emménagez ? Non, c'est vrai.
Allison est une jeune femme à qui tout réussit. Elle est belle, elle est bien née, elle travaille dans l'informatique. Alors, on rappelle que le film a 30 ans, hein, que cette profession était le summum de la modernité et de la classe au début des années 90. Et surtout, eh bien, Allison vit dans un magnifique appartement new-yorkais qu'elle compte bientôt partager avec Sam, son fiancé et futur mari. Malheureusement, elle découvre que Sam la trompe et elle annule le mariage. Pour pallier à la solitude et alléger son loyer, Allison décide de partager son appartement en trouvant une colocataire. Son choix s'arrête sur Edra, une jeune femme à l'opposé d'elle-même, timide, peu sociable et qui travaille dans une librairie. Mais peu à peu, Edra commence à prendre de la place, puis toute la place dans la vie d'Allison, allant jusqu'à imiter ses tenues, sa coiffure et passant ainsi progressivement de colocataire bienveillante à très inquiétante.
Je peux changer.
Non, non, ça n'a rien à voir. C'était bien de cohabiter.
Mais, enfin, il s'agit de l'homme que je vais épouser. Je voudrais qu'on commence notre vie à deux.
Mais, il va te tromper encore, ça, je te le promets. Et quand il le fera, viens pas pleurer chez moi, d'accord ? Parce que là, j'en ai marre de toi.
Jeune femme partagerait appartement, dont le titre américain était Single White Female, hein, ce qui aurait un peu de mal à passer en 2021. C'est l'un des films les plus connus de Barbette Schroeder, sans pour autant être son meilleur au sein d'une filmographie très variée, entre thrillers comme Calcul meurtrier ou Kiss of Death, échappée sud-américaine avec La Vierge des Tueurs, le biopic alcoolisé Barfly ou encore sa célèbre trilogie de documentaires. La trilogie Jeune femme partagerait appartement s'apparente plus spécifiquement à la catégorie du thriller érotique, qui a surtout connu son heure de gloire dans les années 80 et 90. Il est même l'un des exemples marquants de ce genre hollywoodien aux côtés de Liaison fatale ou de Basic Instinct. Le thriller érotique a toujours un côté un peu kitsch, un peu malaisant, voire involontairement ridicule, avec des scènes de sexe à la fois racoleuses et édulcorées et des personnages jamais très nuancés. La femme y est toujours belle, dangereuse, comme dans le bien nommé « Belle et dangereuse » de Kat Chey. Elle n'hésite pas à user de son corps pour manipuler de pauvres hommes qui n'ont rien demandé, jusqu'à littéralement ruiner leur vie, comme dans « Harcèlement » de Barry Levinson. Car oui, à cette époque, on était encore persuadé que le vrai danger venait des femmes qui harcèlent sexuellement les hommes et non l'inverse. Jeune femme partagerait appartement ne se vautre heureusement pas dans une vision trop manichéenne. Malgré la prépondérance de la figure du double maléfique, les personnages féminins et masculins présentent quelques aspérités intéressantes mises en valeur par le jeu des comédiennes. Bridget Fonda, qui incarne à merveille une jeune femme faussement naïve et superficielle, et Janet Jason Leigh, révélée par le film, qui évite avec grâce de tomber dans une caricature de sociopathe malgré de nombreuses situations grand-guignolesques peu évidentes à jouer. Le film est également un thriller domestique qui brille par sa gestion de l'espace. La mise en scène de Schroeder joue admirablement avec le décor quasi unique de l'appartement et plus largement de l'immeuble, un immeuble new-yorkais mythique, donc l'Ansonia à Manhattan. Si l'immeuble a été reconstruit en studio, il n'en demeure pas moins un décor riche et particulièrement cinégénique, dont chaque particularité est exploitée par une photographie très recherchée. Les escaliers semblent aspirer les personnages, les ascenseurs vétustes deviennent des pièges, les appartements communiquent entre eux par les systèmes d'aération et même les immenses fenêtres deviennent un luxe dangereux pour les protagonistes. Jeune femme partagera appartement est une sorte de home invasion qui ne dit pas son nom, dans lequel le danger a l'apparence d'un ange qui gangrène peu à peu le quotidien confortable de sa victime jusqu'au point de non-retour au sein d'un appartement luxueux devenu prison. Bien que daté et un peu long, et parfois de mauvais goût, le film reste un classique des années 90, un plaisir coupable dans lequel rien n'est vraiment surprenant, mais que l'on prend un grand plaisir à revoir.
Jeune femme partagerait appartement, film de Barbet Schroeder, est disponible en DVD. Un jeune vétéran de la guerre en Irak revient et tombe dans la drogue. C'est le film Sherry des frères Russo.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
En 2019, ils avaient réalisé le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, Avengers Endgame. Alors, depuis la ressortie d'Avatar en Chine, le film a chuté d'une place. Voilà, c'est plus eux les premiers. Mais en ces temps difficiles, il était intéressant de voir comment le duo de réalisateurs, les frères Joe Russo et Anthony Russo, pouvaient se sortir du royaume des super-héros, puisqu'ils ont aussi réalisé Captain America. Sherry, diffusée en exclusivité sur la chaîne de streaming Apple TV+, donnait l'occasion de voir quel cinéma pouvait les animer, tant les films de super-héros sont insipides et interchangeables, enfin ces derniers temps je trouve, et tellement ils sont bornés à un cahier des charges voulant plaire à toute la planète. Alors avec Sherry, les frères Russo ne sont plus dans le camp donc des super-pouvoirs, mais des simples troufions, comme Nico Walker, interprété par Tom Holland, un super-héros, hein, puisque c'est l'interprète de Spider-Man. Alors, Nico décide de s'engager dans l'armée américaine pendant 2 ans en tant qu'aide-soignant dans le conflit irakien. Alors, il ne le fait pas par patriotisme, hein, mais parce qu'il est rejeté par une fille qu'il rencontre et dont il tombe amoureux. Alors, au retour, victime d'un choc post-traumatique, le voilà qui sombre dans l'addiction aux opioïdes, puis qui se met à braquer des banques avec une facilité déconcertante pour payer ses doses d'héroïne. Voilà pour le scénario. Alors, au premier abord, c'est pas folichon, mais les frères Russo font dans le clinquant. Alors, ils nous prennent par la main la première personne. C'est le vétéran hein, qui nous raconte son histoire, ce qui laisse place à quelques doses de subjectivité. Il y a notamment alors, des choses assez amusantes. Hein. Il y a une banque qui est rebaptisée Bank of Fuck America. Évidemment, ça n'existe pas, il ne faut pas la chercher. Et puis, il y a des regards face caméra voilà, qui sont nombreux. Sur le sol irakien, on peut leur faire confiance aux frères pour stimuler le spectateur avec ce qu'il faut d'action et d'hémoglobine. Et notre soldat est mis à rude épreuve, voyant son meilleur pote se faire carboniser. Pour la drogue, on voit les effets néfastes des opioïdes avec les nausées, les vomissements. Alors, peu vu de cette manière au cinéma, les cinéastes mettent le paquet. Hein, ils sont sensibles au sujet. Pour eux, cette drogue prescrite aux États-Unis est une perversité du capitalisme, ce qui transparaît dans la mise en scène, même s'il ne faut pas voir quand même chez les frères Russo de farouches anti-capitalistes. Mais tout ce scénario entre guerre et drogue est lesté par une histoire d'amour entre deux êtres qui ne veulent plus se séparer et par une trame qui s'étale sur plus d'une dizaine d'années. Tom Holland, sorti de son costume d'homme araignée, a fort à faire avec un pareil rôle dont il se tire très bien durant les plus de 2h20 de film puisqu'il est de tous les plans. Alors avec son personnage qui s'adresse au spectateur, les mouvements de caméra, l'action comme nerf narratif, la mise en scène se replie sur des effets typiques d'un savoir-faire propre au blockbuster sans que l'ensemble soit indigeste. On peut tout de même regarder, surtout si vous avez des codes, hein, Sherry des frères Russo avec Tom Holland sur Apple TV+. Parfum de thriller sur fond d'une chronique familiale et d'une descente aux enfers horrifique, c'est The Nest de Sean Durkin.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
En 2011, Sean Durkin s'était révélé au public avec l'impressionnant Martha Marcy May Marlene, portrait anxiogène d'une jeune fille fragile tombant dans les mailles du filet d'une communauté pas si peace and love que ça. Alors mine de rien, le cinéaste anticipait la mini-vague du folk horror célébré entre autres avec le récent Midsommar. Mais l'intelligence de Shane Dorkin, alors à peine âgé de 30 ans, était de mettre le cinéma de genre à distance, de le caresser, de s'en servir, mais de ne jamais l'inclure directement, comme pour brouiller les pistes, ne retenant au final de l'épouvante que son atmosphère inquiétante. Alors ce premier long métrage magistral baignait dans une atmosphère cotonneuse, magnifiquement éclairée, évoquant aussi bien la perversité d'un Polanski que le côté vaporeux d'un film comme Virgin Suicide. Il en est de même pour son nouveau long métrage, The Nest, qui a raflé 3 prix à Deauville, devenant ainsi la coqueluche du cinéma indépendant américain. Là aussi, le réalisateur convoque le cinéma de genre, et en particulier l'épouvante gothique. Alors les fantômes de Rebecca, du Château du Dragon ou des Innocents planent sur The Nest, où le cinéaste creuse encore le même dispositif que dans son premier essai. En effet, les codes et signes du genre ne sont convoqués en arrière-plan que pour dresser un portrait angoissant d'une famille en pleine déliquescence, se fissurant sous nos yeux. Alors le récit se déroule dans les années 80, en plein air Reagan. Rory, un ancien courtier devenu un ambitieux entrepreneur, parvient à convaincre son épouse Allison et leurs enfants de quitter le confort d'une banlieue cossue des États-Unis pour s'installer dans une gigantesque demeure en Angleterre, son pays natal.
Il y a quelque chose qui se présente.
Où ça ?
À Londres.
Va te faire foutre.
Ça marche plus ici, pour moi.
Qu'est-ce que tu me racontes ? Je croyais que ça allait bien.
Je commence à être à court d'options.
Plus proche du manoir ou du château que du traditionnel cottage, cette vaste demeure est le premier signe de dérèglement qui va progressivement consumer la gentille petite famille, modèle de réussite à l'américaine. Alors imbu de lui-même et ivre d'une réussite sociale qui ne viendra jamais, Rory rêve d'un nouveau départ, de devenir riche et important, de posséder tout ce qu'il n'avait pas, lui qui vient d'un milieu en fait prolétaire anglais. Mais l'espoir s'évanouit progressivement, Alison s'isole et s'inquiète du comportement de son mari à la lisière d'une folie en devenir. Ses enfants ne s'épanouissent pas, révélant également un mal-être qui va contaminer tout ce petit beau monde. Alors Shane Dorkin marche sur les traces de Harold Pinter et de Joseph Losey, rappelant ainsi le meilleur de leur collaboration The Servant et Accident. Il peint avec beaucoup de justesse et pudeur l'effondrement moral et psychique d'une famille sous l'emprise d'une figure patriarcale symbolisant tout ce qui pouvait horripiler dans le réganisme. La volonté d'écraser l'autre coûte que coûte pour faire de l'argent rapidement sans état d'âme, soigner son apparence jusqu'à l'absurde, étaler une culture que l'on ne possède pas. Mais il le fait sans mépris ni cynisme. Si Rory est un lointain cousin de Patrick Bateman, le héros psychopathe de American Psycho de Bertrand Ellis, Sean Dorkin ne le regarde jamais de haut, ne le méprise pas. Au contraire, il le filme comme une figure pathétique mais touchante, obnubilée par l'obsession de la réussite, lui faisant perdre de vue l'essentiel. Au fond, il recherche le bonheur comme tout le monde, à la différence que cette recherche n'est pas seulement pour lui et ses proches, mais pour épater la galerie, comme pour prendre une revanche sur une enfance vécue dans la pauvreté. Face à lui, sa femme, mi-complice, mi-sceptique, commence à se poser des questions, s'interroge sur le sens de cette existence vide et m'as-tu vu à partir du moment où l'absence de moyens financiers se fait ressentir.
C'est pour aller à tes soirées mondaines, dire à tout le monde qu'on a des chevaux. Et pouvoir dire à tout le monde que ton fils va à la meilleure école. T'es un pauvre qui essaie de passer pour un riche et y a absolument personne qui t'importe à part toi.
Quand je t'ai connu, t'étais désespéré. Tu vivais avec ta fille dans un petit 2,5 complètement minable. Et tu adorais avoir droit tout à coup à une maison de riche, aux belles affaires et aux bons restos. Alors ne me dis pas que tout ça c'est pour
et
moi.
Et je me retrouve dans quoi ? Je vis dans une espèce de foutu manoir crasseux qui tombe complètement en ruine.
Le thème de la lutte des classes est subtilement traité par un scénario remarquablement écrit, parfois un poil démonstratif, très proche de l'écriture du dramaturge Harold Pinter. La mise en scène glacée aligne les plans remarquablement composés, prend son temps et distille une angoisse qui va crescendo, alors jusqu'à un final magnifique d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler celui de History of Violence et un autre un film suisse, je crois, qui s'appelait Ceux qui travaillent. Alors voilà, Jude Law et Carrie Coon, que je connaissais pas comme actrice, sont tous les deux épatants. Et ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas vu Jude Law aussi bon en fait.
The Nest est un film en exclusivité sur Canal Play, et puisque l'interprétation de Jude Law a été remarquable à tes yeux, nous allons pouvoir jouer un blind test avec la filmographie de l'acteur britannique, une soixantaine de films, pas tous bons, pour 30 années de carrière. Alors attention, donc 5 extraits, il faut deviner les titres. Premier extrait.
On ne peut pas rester ici. Les idiots à qui j'ai affaire, tu ne peux pas imaginer.
Ils croient que j'ai tué le directeur de la mission.
Qu'est-ce qui lui a fait croire ?
Ils ont trouvé un de mes cils.
Où ?
Dans un couloir.
Ah, eh bien, ça pourrait être pire. Ils auraient pu le trouver dans ton œil. Ils ont affiché ma photo sur tous les écrans de leur réseau informatique. Je ne peux pas me retourner sans voir mon visage. Ils vont me reconnaître.
Ils ne vont pas te reconnaître.
Je sais qu'ils vont me reconnaître.
Moi, je ne te reconnais pas du tout. Ils ne feront pas le rapport entre le Cile et toi. Jamais ils ne voudront admettre qu'un membre de leur élite ait pu tous les berner depuis si longtemps. Non, 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 on ne change rien. On fait comme prévu. Tu es Jérôme Moreau, navigateur première classe.
Je ne suis pas Jérôme Moreau. Je suis le suspect d'un meurtre.
S'il n'est pas Jérôme Moreau, qui est-il ? C'est trouvé, Guillaume.
C'est Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol.
Oui, sorti en 1997, et il donnait la réplique à Ethan Hawke. Gattaca est un centre d'études et de recherche spatiale pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat et idéal, voit sa vie détruite par un accident. Et Jérôme, c'est Jude Law. Et donc, Vincent, lui, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace, mais bon, il n'en a pas le droit, et chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les loi de Gattaca, 467 000 entrées en France, j'ai presque envie de dire seulement. Deuxième extrait.
Qui vous envoie ? Ça ne vous regarde pas. Nous sommes là, c'est tout ce qui compte. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a pris ? Je ne voulais pas dire ça.
C'est ton personnage qui parle. C'est assez schizophrénique comme sensation. Tu vas t'habituer. Certaines choses doivent être dites pour faire avancer l'intrigue et pour camper les personnages. Et ces choses-là se disent que tu le veuilles ou pas. Laisse faire. Ne résiste pas.
Mais toi, tu peux dire ça devant cet homme ?
Regarde-le.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'est mis en boucle. Il n'en sortira pas tant que tu n'auras pas prononcé la phrase qui convient.
Ça a été trouvé.
Lost Existence de Cronenberg.
Oui, film sorti en 1999 avec Jennifer Jason Leigh. Dans un avenir proche, une créatrice de génie, Allegra Geller, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connectent directement au système nerveux, Existence. Et la démonstration du tout dernier jeu de la conceptrice tourne au cauchemar par l'intervention des réalistes, un groupe de fanatiques opposés à la technologisation de l'être humain. 621 000 entrées en France pour ce film de Cronenberg. Troisième extrait de ce blind test spécial Jude Law.
La vraie ironie, c'est que je fais pas semblant. Pas semblant d'être un autre, alors que toi.
Mortel.
J'ai été sincère, je t'ai ouvert mon cœur, sans la moindre méfiance.
Mortel.
Mais toi, si tu veux savoir, il y a quelque chose, je le vois bien. Le soir où on a fait la partie d'échecs, tu vas dire que ça crevait pas les yeux.
Quoi, quel soir ?
Bah voyons, non, ce serait trop dangereux, bien sûr, que tu le reconnaisses. Oh non, 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 on est frères. Et tout ce que tu trouves, c'est ce truc sordide avec Marge. Il a fallu que tu la baisses sur le bateau, alors qu'on entendait tout. C'était une torture pour tout le monde. Il faut que t'écoutes que ta queue quand on a envie. Et là, tu vas te marier. Non, j'en reviens pas, je m'excuse. Tu racontes des salades, tu mens à Marge, et puis tu l'épouses alors que tu tapais Sylvana. Tu l'avais engrossée, tu bousilles la vie des gens, tu veux jouer du saxo, tu veux jouer de la batterie, décide-toi. À quoi tu joues ?
Ça sèche ici dans les studios. Je ne sais pas si vous, auditeurs, vous avez reconnu ce dialogue. Alors, entre Jude Law et Matt Damon, il y a aussi dans ce film Gwyneth Paltrow.
Notre parfait.
Non, c'est un film de 99 d'Anthony Minghella.
Le patient. Non, c'est le talentueux.
Oui.
C'est
Monsieur Ripley.
Monsieur Ripley, oui. De Patricia Schmidt. Enfin, le roman,
en tout cas.
Voilà.
Du roman, oui. Et c'est 40 ans après le film Plein Soleil de René Clément avec Alain Delon qui, lui, était sorti en 1960. 516 000 entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test, Jude Law.
Au nom de quoi me regardez-vous avec un tel désarroi ?
Ah, mais c'est que je me fais un sang d'encre.
L'on vous a purgé de toute vitalité. Le mariage, c'est la fin de tout, sachez-le.
C'est le commencement, à mes yeux.
L'apocalypse.
La renaissance.
Restriction.
Structure.
Rendre des comptes à une femme. Faire partie d'un couple. Une vie de bonheur conjugal. La possibilité de fonder une famille. Qui aurait l'idée de mourir seul ?
Donc nous faisons la foire ce soir comme au bon vieux temps. Vous vous casez, fondez une famille, tandis que je mourrai seul.
C'est assez bien résumé. Peut-être est-il préférable de mourir seul plutôt que de vivre dans un éternel purgatoire.
Sherlock Holmes de Guy Ritchie, donc le deuxième.
Oui, avec beaucoup de surjeux quand même dans ce film. Robert Downey Jr., cette fois-ci qui donne la réplique à Jude Law. C'est le deuxième opus donc, des aventures de Sherlock Holmes. Et là, beaucoup plus d'entrées en France, hein, 2,3 millions. Voilà. Alors, on reste dans le million avec ce dernier film.
Où allons-nous ?
Par là maintenant.
Serais-tu dans le pétrin ? As-tu dû fuir quelqu'un ?
Maman m'a dit de fuir.
Pourquoi t'a-t-elle dit ça?
Je crois que c'est... parce qu'Henri ne m'aimait pas.
Pourquoi ça?
Martin est arrivé chez nous.
Qui est-ce?
Martin est le vrai fils de maman et d'Henri. Dès que j'aurai trouvé la fée bleue, je pourrai rentrer chez moi. Maman aimera un vrai petit garçon. Et la fée bleue va faire de moi un vrai petit garçon.
La fée bleue est Mecha ou Orga, homme ou femme?
Femme.
Femme. Je connais les femmes.
C'est trouvé.
Donc c'est A.I. de Steven Spielberg.
Oui, film de 2001. 2001 d'ailleurs, ça nous fait penser à quoi, à Stanley Kubrick? C'est une idée de Stanley Kubrick, adaptée de la nouvelle de Brian Aldiss, Les super toys durent tout l'été. Donc c'est l'histoire de David, enfant robot conçu par le professeur Obi, qui est si parfaitement réalisé à l'image de l'homme qu'il a, comme un enfant ordinaire, a bien besoin d'aimer et d'être aimé. Et faute de trouver l'affection chez ses parents adoptifs, il va se lancer à la recherche de la fée bleue de Pinocchio, seul capable de faire de lui un enfant tout à fait comme les autres. 1,5 million d'entrées en France. Et c'est ainsi que s'achève le blind test spécial Jude Law, puisque nous parlions de The Nest. Changeons de registre maintenant avec un film des années 70, Le Prince des Chats de Ota Koval, qui sort en DVD.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Regarde comme il te ressemble. On dirait que c'est toi. Il a même Lisa à côté de lui. C'est vrai. Mais lui, il a une vraie épée et une bague.
Si vous pensiez que Disney a le monopole sur les films jeunesse et les adaptations de contes de fées, ce mois-ci, Artus se charge de vous rafraîchir encore une fois la mémoire en étoffant son impressionnant catalogue d'une nouvelle collection intitulée « Aventures et merveilles ». Direction l'Europe, berceau des contes justement, et plus précisément en Bohême pour cette coproduction entre l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie. Le Prince des Chats s'inscrit dans la lignée extrêmement prolixe des films pour la jeunesse tchèque qui puisaient leurs sources chez les frères Grimm comme chez Jules Verne et utilisaient donc toute une série de techniques visuelles comme l'animation ou encore la stop-motion pour enchanter leur public. Si les noms de Jiří Trenka ou Karel Zeman sont les plus connus du grand public, Le Prince des Chats va permettre aux Français de redécouvrir celui d'Ota Koval grâce à cet étonnant film qui, lui, n'est pas tiré d'un conte, mais une histoire originale qui va s'amuser à en utiliser, justement, de tous ces codes.
Mais dis ton cheval, peut-être qu'il s'est volé. Souvent, ils volent les chevaux dans les contes.
Ben, celui-là, ça m'étonnerait, tu sais. D'abord, il était maigre, et il s'est transformé. Ya! Mais mes habits aussi sont transformés.
Mais tout ça, c'est très clair.
Qu'est-ce qui est clair?
Que nous sommes dans un conte de fées.
Malheur, la famille Kral doit déménager. Pour subsister, ils doivent emménager dans un château et se mettre au service d'un peintre, Albert, particulièrement étrange. Celui-ci, toujours accompagné par son chien de garde, fait bien savoir qu'il n'aime pas les chats. Or, la famille, qui se compose du père, de la mère, mais aussi du jeune Radek et de sa petite sœur Teresa, héberge aussi une minette nommée Lisa, qui va bien sûr jouer un rôle capital pour la suite. C'est même elle qui va ouvrir la première piste de lecture du film dès le début du récit. Alors que Lisa ne veut pas partir du foyer au profit du château d'Albert, on nous dit que le chien est attaché aux hommes et que le chat est attaché à la maison. Le chat casanier annonce déjà que ce changement de lieu ne sera pas forcément pour le meilleur et que ce château n'est peut-être pas la destination la plus sûre. D'ailleurs, la voiture de la famille ne tarde pas à s'embourber dans de la neige à moitié fondue alors qu'ils sont en route en pleine forêt. Teresa blâme son frère car elle le soupçonne d'être à l'origine de cet accident car il vient de secouer une petite boule enneigée juste avant l'accrochage. Et si l'idée que le récit est en train de basculer lentement vers le fantastique ne vous était déjà pas forcément évidente, eh bien une calèche d'apparence anachronique en cette fin des années 70 est tirée par des chevaux, fait alors son apparition et va donc les conduire au château d'Albert. Leur hôte, tout vêtu de noir, est particulièrement étrange et dévoile certaines de ses manies tandis qu'il leur fait visiter le château. On y découvre une galerie de miroirs déformants, une salle des monstres, en fait une espèce de zoo empaillé mais vu à hauteur d'enfant. Le château a la particularité d'être en chantier et il y a de la sciure partout, ce qui fait penser un peu à la neige qui entre continuellement dans le castel de Crimson Peak de Guillermo del Toro, autre film explorant le folklore fantastique européen. Mais la grande découverte réside dans un portrait accroché où un petit prince qui pose avec son chat ressemble à s'y méprendre à Radek et à Lisa. Derrière se trouve un passage et l'aventure va du coup pouvoir véritablement commencer. Car Lisa, qui venait de mettre à bas dans la tour du château, a été noyée par Albert. Mais il est encore temps de la sauver en partant à la recherche d'un élixir de vie dans ce monde magique. Radek devra combattre trois monstres, un de l'air, un de la terre et un de la mer.
Bonjour petit chaperon rouge.
Ah, c'est toi, bonjour Teresa.
Je suis bien contente de te revoir. Et où tu vas comme ça?
Je vais chez ma mère grand, Teresa.
Qu'est-ce que tu portes dans ton panier?
Dis donc,
ça te regarde pas.
Tant pis, elle sera mangée par le loup. En route.
Le prince des chats, c'est l'occasion de croiser dans un contexte original toute une série de figures connues du répertoire merveilleux. Il y a une sorcière au nez crochu qui change de couleur quand elle s'énerve, Blanche-Neige et ses sept nains, le petit prince de Saint-Exupéry et son renard, un arbre aux pommes d'or, le prince des chats, a beau faire directement référence à Radek dans son titre, on découvre en fait que la véritable vedette, eh bien, c'est la petite Teresa. Très vite, on note ce décalage savoureux car elle est très loin d'être infantilisée, voire même passive. Elle est toujours consciente des codes de l'univers dans lequel elle se trouve. Alors que Radek, lui, est un peu pâteau, Teresa, elle semble être vraiment à son aise dans ce monde. C'est elle qui connaît les pièges de ce genre de récit, comme les portes fermées chez Barbe Bleue. Le réalisateur joue astucieusement la carte à méta du conte tout au long du film, qui se termine même par les deux enfants s'adressant au spectateur et le salue à travers un rideau rouge qui se referme sur eux. Alors, comme l'explique Christian Lucas dans sa présentation du film, Ota Koval use d'un miroir qui déforme le monde des adultes. C'est une mécanique typique du rêve à la Alice au Pays des Merveilles et cela sert admirablement bien cette charmante réflexion sur le pouvoir de l'imagination.
Le Prince des Chats de Ota Koval est donc disponible en DVD chez l'éditeur Arctus. On termine cette émission non pas avec les Inuits, mais avec les
Inus.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Projet initié par Terre Inu, une société de production québécoise visant à développer des documentaires sur les premiers peuples autochtones. Je m'appelle Humain, le portrait sensible d'une poétesse Inu, célébrée dans son pays, menant depuis longtemps un combat militant contre l'oubli et la disparition d'une langue, d'une culture et ses traditions. Alors Joséphine Bacon est une artiste libre, évoluant à la croisée des deux mondes, celui de ses ancêtres, de son peuple, et celui contemporain, moderne, par lequel elle a pu se faire un nom, acquérir une reconnaissance un peu partout dans son pays et aussi à travers le monde. Alors le film commence par ces mots de la poétesse, évidents et limpides. Le mot poésie en Inu est un mot qui n'existe pas. C'est un mot qu'on a inventé. Je pense qu'on n'avait pas besoin du mot poème dans notre langue parce qu'on était poète, juste à vivre en harmonie avec l'eau, avec la terre. Alors par ailleurs, elle n'aime pas se définir comme poète. Le mot la dérange, sans doute parce que pour ce petit bout de femme, dégageant une intelligence et une humanité assez rares, la poésie est partout. Alors Joséphine Bacon, souvent accompagnée d'amis, évoque ses souvenirs de jeunesse, son passé au sein de la communauté Inu, son entrée douloureuse au pensionnat, sa période beatnik, son attachement à sa culture, sans pour autant refuser une idée de la modernité, ce qui rend son personnage extrêmement attachant. Alors elle incarne une forme de sagesse réconfortante, ne jugeant rien, restant dans l'observation. À travers sa poésie simple et évidente, elle évoque toute une histoire d'un peuple oublié, sans jamais afficher de rancœur ni regret, préférant d'ailleurs occulter le traumatisme de déculturation à travers un travail de résilience. Elle promeut, en évitant tout didactisme, une réconciliation, un rapprochement entre les autochtones et les allochtones. Un peuple hanté par les croyances mystiques et une société occidentale marquée par le progrès. La réalisatrice Kim Obomsawin, un spécialiste dans le documentaire ethnique, a tenté de concilier la forme avec le fond, alliant un rythme contemplatif et cotonneux avec la douceur envoûtante de la voix de Joséphine Bacon, observant aussi cette dernière avec beaucoup de bienveillance. Alors cette invitation à un voyage intérieur au cœur de la poésie de cette figure radieuse est filmée avec une délicatesse permanente, privilégiant les plans rapprochés sur son visage et les plans larges convoquant des paysages majestueux de Dame Nature. Alors tournée en scope, bénéficiant d'une esthétique soignée, entrecoupée d'images d'archives passionnantes, Je m'appelle Humain pêche parfois par excès de joliesse. Certaines affaîtries inutiles alourdissent le propos, à l'image de certains ralentis, de travelling ou encore la présence d'une bande-son un peu chargée. Alors la démarche de la réalisatrice est néanmoins exemplaire, empreinte d'une sincérité édifiante. La beauté élégiaque des poèmes lus par l'intéressé demeure les moments les plus forts de ce documentaire singulier, permettant avant tout de découvrir une culture peu connue, oubliée à travers les siècles. Voilà.
Ce documentaire, il est disponible seulement sur certaines plateformes.
Oui, Alchimiste, alors Univers Ciné, les Mutins de Pangée, Ciné Scénique et puis Love My VOD.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
On se quitte en vous parlant de Pêcheurs du Monde. C'est un festival en ligne sur Cube pour Culture Bretagne. C'est jusqu'au 5 avril. Il y a 22 films, principalement des documentaires, interrogeant l'avenir des océans, des pêcheurs et les défis du 21e siècle. Les films sont disponibles en accès libre et sans inscription sur cubeweb.media.